le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour, il est 9h30, c'est le service protestant qui vous rejoint en ce jeudi de l'Ascension. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h avec le pasteur Éric Georges, pasteur de l'Église protestante unie de France à Évreux. Bonjour Éric.
Bonjour Michel.
Alors vous allez ce matin nous parler de l'Ascension, donc certainement nous faire un peu tourner les yeux vers le ciel. Qu'allons-nous y voir?
Est-ce un oiseau? Est-ce un avion? Est-ce une fusée? Non. C'est Jésus-Christ qui s'élève dans le ciel. Nous sommes en effet le jeudi de l'Ascension. Pour beaucoup, c'est le début d'un long week-end. Pour certains, c'est le début d'un temps de travail en Église. Le synode national de l'Église protestante unie de France commence aujourd'hui à Lille. Nos prières accompagnent ces frères et sœurs dans leurs débats et dans leurs réflexions sur la nouvelle déclaration de foi de l'Église protestante unie. Pour les chrétiens, c'est avant tout un temps de fête un peu particulier. Nous fêtons ce moment où Jésus est enlevé au ciel. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus le Christ, notre Seigneur. Et c'est dans la louange que nous commençons cette journée. Gloire à toi, mon Dieu, que ton nom soit crié par toute la terre, qu'il soit sur les lèvres des grands comme limite à leur puissance. Gloire à toi, mon Dieu, que ton nom soit sur les lèvres des humbles et des petits, qui n'ont pas le savoir, mais qui te connaissent, toi. Gloire à toi, mon Dieu, que ton nom soit murmuré par ceux qui aiment et par ceux qui n'aiment plus, mais qui espèrent toujours l'amour. Gloire à toi, mon Dieu, que ton nom soit balbutié par les lèvres des tout petits au regard innocent et par celles et ceux qui ont soif de justice. Gloire à toi, mon Dieu, que ton nom soit inscrit dans le cœur de nos enfants comme un signe de joie au milieu des vivants. Amen.
En cette fête de l'Ascension, nous nous intéressons au sens de cette célébration, mais d'abord avec vous, Éric Georges, au sens du mot lui-même qui accompagne cette fête.
Oui, parce que les différentes fêtes chrétiennes, généralement, ont des noms bizarres. Avant, Noël, Carême, Pâques, Pentecôte. L'Ascension, c'est un peu un intrus. C'est la seule fête chrétienne dont le nom soit un mot du vocabulaire courant. L'autre particularité, c'est qu'un seul auteur de la Bible, l'évangéliste Luc, nous raconte cet épisode. Et il nous le raconte deux fois, une fois à la fin de son évangile et une fois au début du livre des Actes des Apôtres. Ce matin, je vous propose de profiter des compréhensions profanes de ce mot pour réfléchir à ce que Luc a voulu nous transmettre par ce récit. Mais avant, nous demandons à Dieu de nous éclairer dans l'écoute de sa parole. Père, tu n'ignores rien de nos réticences, ni de nos résistances devant ta parole. Tu sais combien nous nous esquivons lorsque ta bonne nouvelle se fait précise, combien nous interprétons lorsqu'elle nous interpelle trop, combien nous oublions lorsqu'elle se fait dérangeante. Et pourtant, nous voici ce matin à l'écoute de ce que nous disent les Écritures. Et c'est pourquoi nous te prions, que ton esprit nous accorde un cœur ouvert et une intelligence accueillante à ta bonne nouvelle. Derrière les mots que nous entendons, donne-nous de discerner ta parole de vie, ta parole pour nos vies. Amen. Nous lisons au début du livre des Actes des Apôtres. Après sa mort, Jésus se présente à ses apôtres et il leur prouve de plusieurs façons qu'il est bien vivant. Pendant 40 jours, il se montre à eux et il leur parle du royaume de Dieu. Un jour, pendant qu'il mange avec eux, il leur donne cet ordre. « Ne quittez pas Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. Moi-même, je vous l'ai déjà annoncé. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans quelques jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. » Les apôtres sont donc réunis avec Jésus et lui demandent « Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël ?» Jésus leur répond « Vous n'avez pas besoin de connaître le temps et le moment où ces choses doivent arriver. C'est mon Père qui décide cela. Lui seul a le pouvoir de le faire. Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Après que Jésus a dit cela, il monte au ciel sous les yeux de ses apôtres. Ensuite, un nuage le cache et il ne le voit plus. Mais pendant que Jésus s'éloigne, les apôtres continuent à regarder le ciel. Tout à coup, deux hommes, en vêtements blancs, sont à côté d'eux. Ils disent aux apôtres, « Hommes de Galilée, vous restez là à regarder le ciel. Pourquoi donc ? Jésus vous a quittés pour aller vers le ciel. Et il reviendra de la même façon que vous l'avez vu aller vers le ciel. »
Alors, en cette ascension, Jésus est enlevé au ciel, Eric Georges. C'est une image un peu étrange dans notre imagerie contemporaine. Ça fait un petit peu super-héros.
Oui, et c'est vrai que par rapport à la simplicité de l'enfant dans la mangeoire à Noël, par rapport au mystère du tombeau vide à Pâques, l'ascension est un peu tape-à-l'œil, un peu super-héroïque. C'est peut-être la fête bling-bling de notre calendrier liturgique. Mais pourtant, cette vision dans l'espace est très parlante pour nous. Nous savons tous qu'il vaut mieux être au top de la forme qu'au 36e dessous. Nous comprenons très bien ce que veut dire remonter la pente. Bref, il est clair que pour nous, en haut, c'est mieux qu'en bas. Alors, vers quel sommet l'ascension de Jésus nous invite-t-elle à élever nos regards ?
Alors pour élever nos regards, vous nous proposez maintenant un temps de prière encore.
Oui, avec le psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes. Qui pourra me secourir ? Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Qu'il t'empêche de glisser, qu'il ne dorme pas ton gardien. Non, il ne ferme pas les yeux, il ne dort pas le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien. Le Seigneur te protège, il est auprès de toi. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas. Pendant la nuit, la lune ne te fera aucun mal. Le Seigneur te protégera de tout mal, il veillera sur ta vie. Le Seigneur veillera sur toi depuis ton départ jusqu'à ton retour, dès maintenant et pour toujours. Amen.
Alors pour continuer, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet de ce mot que on va essayer de regarder sous différents angles, déjà comprendre ce mot avant de comprendre le sens de cette journée particulière qu'est ce jeudi de l'Ascension.
Eh bien moi, la première chose à laquelle je pense lorsqu'on me parle d'Ascension, c'est à l'Ascension sociale. Et on n'est pas si loin du super-héros auquel vous faisiez allusion. En effet, dans nos dictionnaires de lieux communs, l'Ascension sociale est généralement fulgurante. On dit de ceux qui se sont élevés, « elle a décollé ». Il a pris son essor. Elle s'est carrément envolée. Jean-Jacques Goldman chante très bien cette forme d'ascension. On trouve quelque chose de l'ascension sociale dans l'ascension de Jésus. Celui qui, 40 jours plus tôt, avait été mis plus bas que terre, celui qui avait été couvert de crachats, traité comme un criminel, maudit, mis à mort, et à présent élevé pour siéger à la droite de Dieu. Difficile de rêver plus fulgurante comme ascension sociale.
Alors en effet, on peut comparer l'ascension de Jésus à une ascension sociale un peu extrême, voire absolue, un peu comme une revanche sur la passion qui a été vécue juste avant. Mais est-ce que on peut se contenter de cette ascension sociale comme explication pour ce jour de l'ascension ?
Non, bien sûr que non. D'abord parce que ces aigles noirs qui dominent le ciel, nous, de notre plancher des vaches, nous les regardons avec admiration. Ça, pour Jésus, ça pourrait aller. Avec envie, mais parfois aussi avec un peu de jalousie. Ensuite, nous n'oublions pas que ces ascensions ont généralement eu un prix, qu'il a fallu souvent bousculer, voire piétiner d'autres personnes. Et dans le meilleur des cas, il y a tous ceux qu'on laisse loin derrière nous, tout en bas. Et c'est Francis Cabrel qui nous le rappelle.
Souviens-toi de nous, toi qui t'es envolé. Souviens-toi de nous, sinon tu vas tomber.
Alors vous nous invitez maintenant, Eric Georges, à un nouveau temps de prière. Alors tout à l'heure, vous nous proposiez de nous élever par la prière et maintenant, de façon un peu paradoxale, de garder les pieds sur terre avec la prière.
Pour celles et ceux qui s'élèvent et pour celles et ceux qui restent à terre, effectivement, nous prions. Dieu, notre Père, des hommes et des femmes rêvent de s'élever, parfois pour échapper à la misère ou à l'oppression, pour prendre un peu d'altitude, pour trouver un peu de liberté, ou tout simplement pour respirer. Mais parfois aussi en quête de pouvoir, de domination et de gloire. Nous te présentons nos rêves de puissance et nos désirs d'envol. Donne-nous de voir clair en nous-mêmes et de faire le tri entre notre ambition et notre volonté de puissance. Dieu notre Père, des hommes et des femmes restent à terre, trop meurtris et à bout de force pour relever seulement la tête, trop désespérés pour se mettre debout, ou simplement trop effrayés pour se dégager du sol. Donne-nous de ne jamais rabaisser notre frère ou notre sœur, de toujours tendre la main qui sera un appui. Et en nous-mêmes, donne-nous de faire le tri entre l'humilité et le renoncement, entre la lucidité et la résignation. Amen.
Vous êtes à l'écoute du service protestant ce jeudi de l'Ascension sur France Culture. Nous sommes avec le pasteur Eric Georges et nous revenons sur les différentes notions que peut évoquer ce mot « ascension ». Alors Eric Georges, je vous nous parliez de l'ascension sociale, mais il y a d'autres notions derrière ce mot.
Oui, la deuxième image que m'évoque ce mot d'ascension, c'est l'alpinisme. Alors on parle rarement d'ascension pour une promenade en montagne, mais le mot s'impose quand on passe à l'alpinisme de spécialiste. On va évoquer l'ascension de l'Everest par la face nord, par exemple. Et là, de la fulgurance, nous passons à la lenteur, à la progressivité. Et surtout, d'une ascension dans le monde, nous passons à une ascension hors du monde.
Oui, parce que l'ascension sociale, c'est une ascension dans la société, alors que l'ascension dont vous nous parlez, celle des alpinistes, c'est une ascension un peu en recul de la société. On va voir la société de plus loin et s'en extraire un moment.
En effet, lorsqu'on gravit une montagne, le paysage change. On passe de la vallée à la forêt, puis à la roche, puis à la neige et à la glace. Et l'alpiniste change aussi. Il se défait progressivement de ses préoccupations, de son souci. Il trouve un nouveau rythme, une nouvelle respiration. Pour autant, prendre du recul ne signifie pas se couper de la société. L'alpiniste sait bien qu'il faudra redescendre. Et d'une certaine manière, la descente en montagne fait partie de l'ascension. Mais on ne descendra pas exactement comme on est monté.
Il semble que là, on quitte un petit peu l'imagerie du super-héros et on se rapproche un peu plus de quelque chose qui peut se trouver dans la Bible avec cette ascension de la montagne.
C'est vrai que dans les récits bibliques, les grands personnages montent dans la montagne pour prendre du recul par rapport à la société et ils en redescendent transformés. Quand Moïse et Élie redescendent du Sinaï ou de l'Horeb, ils sont différents. Ils reviennent vers la plaine, vers le peuple, avec quelque chose de nouveau. Moïse redescend avec une loi, ou Élie redescend avec une nouvelle image de Dieu, avec une nouvelle mission. Du prophète seul contre tous, Élie va être appelé à réunir le reste d'Israël et à travailler avec d'autres.
Alors là, vous nous rappelez certains passages de la Bible, vous faites allusion à Moïse qui descend du mont Sinaï avec les tables de la loi. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu cette histoire d'Élie à l'Horeb?
Eh bien, après avoir affronté les prophètes du dieu Baal, Élie est pourchassé par la reine Jézabel et il doit s'enfuir. Dieu l'appelle à monter sur l'Horeb et là, Dieu passe devant lui dans un souffle léger, plutôt que dans le feu, le tremblement de terre et la tempête. Et pour Élie, c'est une nouvelle image de Dieu. De plus, Dieu va affirmer à Élie que tous les Israélites n'adorent pas les dieux étrangers, qu'il y a un reste, un petit groupe qui est resté fidèle à Dieu. Enfin, Élie va se voir chargé de nommer Jéhu comme roi d'Israël et Élisée, le prophète qui lui succédera. Pour revenir à nos alpinistes, au sommet d'une montagne, la première chose qu'on fait, c'est de regarder vers le bas, de profiter de la vue, d'embrasser du regard ce paysage élargi qui s'offre à nous. Et quand Jésus s'élève vers le ciel, son horizon s'élargit, son regard peut porter plus loin que l'immédiat de ses disciples, des foules de Galilée et de Judée. Si Jésus prend de la hauteur, c'est pour embrasser l'humanité tout entière, dans tous les lieux et dans tous les temps. Et puis, quand quelqu'un est élevé, il devient aussi plus visible. Non seulement Jésus voit tout le monde, mais il est appelé à être vu par tous. Tous peuvent lever les yeux vers lui. Et l'on peut lire l'ascension comme le signe que la mission de Jésus n'est plus seulement portée sur Israël, mais qu'elle s'étend vers le monde entier. Et nous prions. Vois, Jésus, les peuples des vertes forêts, peuples aux mains d'ébène. Dans tes mains, le manioc et le mil leur donneront fin d'être peuple de sœurs et de frères. Vois, Jésus, les peuples de l'océan bleu, peuple parsemé. Dans tes mains, le poisson partagé sera communion pour les îles dispersées. Vois, Jésus, les peuples de la couleur de leur temple d'or. Dans tes mains, le riz deviendra nourriture de vie pour les multitudes. Vois, Jésus, les peuples aux mains brunes et ses épis de maïs. Dans tes mains, ils deviendront aliments du grand respect du pauvre. Vois, Jésus, les peuples des grandes plaines de blé et leurs richesses engrangées. Dans tes mains, le pain se transformera en un pain partagé avec l'étranger. Vois, Jésus, la terre sur laquelle vivent ces peuples. Vois ces trésors de vie, de beauté et de fragilité. Dans tes mains, nos mains apprendront à planter et à semer, à soigner, à respecter et à protéger. Et alors, peuples d'Afrique et d'Océanie, d'Asie, d'Europe et des Amériques, tous, nous serons entre tes mains. Amen.
Georges, vous nous disiez avant la pause musicale que Jésus, élevé, peut ainsi voir tout le monde, voire le monde entier même. Mais pour ce qui est d'être vu, ça dure pas très longtemps, puisque le texte nous indique bien que Jésus disparaît dans la nuée.
Vous avez raison, Michel. L'ascension est aussi, et peut-être même surtout, un enlèvement. Au moment où Jésus s'élève, il disparaît. Et cela nous prépare à la Pentecôte, qui arrivera 10 jours plus tard. L'ascension, c'est le signe que la mission de Jésus est pour le monde. Mais elle nous dit aussi, puisque Jésus disparaît, que cette mission, c'est l'Église. Ce sont les disciples qui vont la porter.
Donc l'ascension serait une sorte de marque d'une mission vers le monde.
Oui. C'est d'ailleurs ce que Jésus dit à ses disciples. « Alors vous serez mes témoins, à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » C'est également l'envoi final de l'Évangile selon Matthieu. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. »
Voilà, mais alors cet envoi en mission des disciples suit en fait la Pentecôte. Là, on est un petit peu en avance, puisque la Pentecôte, c'est 10 jours après l'ascension.
Oui, nous sommes un peu en avance, peut-être, mais pas tant que ça. Nous avons interrompu notre lecture juste après que 2 messagers en vêtements blancs aient enjoint aux disciples de ne pas rester là, le nez en l'air, à attraper des torticolis. Après, que font les disciples? Eh bien, nous lisons. Alors, ils retournèrent à Jérusalem depuis le mont dit des Oliviers qui est près de Jérusalem dans le rayon des déplacements autorisés le jour du sabbat. Quand ils furent rentrés, ils montèrent dans la chambre, à l'étage où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Judas, fils de Jacques. Donc, les disciples retournent vers Jérusalem. Or, symboliquement, Jérusalem est la ville vers laquelle on monte, parce que c'est la ville du Temple, la ville où l'on vient pour rencontrer Dieu.
Et en plus de monter à Jérusalem, ils montent dans la chambre haute.
Exactement. C'est pourquoi je crois que non seulement nous assistons à l'ascension de Jésus, mais si nous lisons un peu plus loin dans le texte, nous assistons aussi au début de l'ascension des disciples. Bien sûr, il y aura une halte jusqu'à la Pentecôte pour que les apôtres reçoivent l'Esprit, puis... Après cette halte, l'ascension reprendra. Comme en montagne, on profite d'une halte pour faire le plein et reprendre vraiment des forces. D'ailleurs, Jésus évoque bien un processus par étapes. Il dit « à Jérusalem, dans toute la Judée, et la Samarie, et jusqu'au bout du monde ».
Alors vous nous évoquez là une ascension par étapes, mais vers qui et vers quoi ?
Eh bien comme Jésus, vers ce Dieu que nous prions.
Alors vous me disiez, Eric Georges, à l'instant que les disciples commencent une ascension vers Dieu. Mais moi, vu la formulation à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde, je m'attendais à ce que vous nous parliez d'une ascension vers les autres.
Eh oui, mais vous avez raison, les disciples commencent leur ascension vers les autres, mais c'est ainsi qu'ils commencent leur ascension vers Dieu. Si jusqu'ici, notre langage de tous les jours nous éclairait sur le sens de l'ascension, il nous faut maintenant interroger un peu la spatialité de ce langage. En effet, nos expressions nous donnent le choix entre nous élever plus haut que les autres ou redescendre de notre nuage, redescendre vers le commun des mortels, vers les autres. Et dans les deux cas, les autres, nos frères et nos sœurs, sont toujours plus bas que nous. Or, s'il est logique d'affirmer que Dieu, en Jésus-Christ, s'est abaissé, en ce qui nous concerne, c'est très ennuyeux de laisser entendre, même sur le ton de l'ironie, que le mouvement qui nous conduit vers les autres est un mouvement descendant. Tant que nous dirons qu'aller vers les autres, c'est nous abaisser, le message de Jésus-Christ, l'Évangile qui nous appelle à aller vers nos frères et nos sœurs, nous paraît aller contre notre aspiration à la hauteur. Ne serait-il pas temps de corriger un peu notre langage, de nous dire que quand nous allons vers les autres, nous nous élevons ?
D'autant plus que le message évangélique, d'une manière générale, invite à l'humilité.
C'est vrai qu'il y a en nous une soif de domination qu'il est bon de contredire, de contrarier. Mais il faut aussi noter que quand Jésus nous interpelle, il ne nous dit pas « ne cherchez pas à être grand », ni « restez à votre place ». Il nous dit « si vous voulez être grand, ou peut-être puisque vous voulez être grand, puisque vous voulez la meilleure place, puisque vous voulez être le premier, alors mettez-vous au service. Que nous soyons au fond du trou, que nous planions dans la stratosphère ou que nous soyons perdus sur notre planète, en fait, c'est le même geste, nous sommes recroquevillés sur nous-mêmes. Et Jésus nous invite à nous déplier, à nous déployer pour monter vers les autres. C'est le sens de tout son message, de tout son enseignement. Tu veux monter vers Dieu ? Eh bien, va vers les autres, mets-toi à leur service. Le plus grand parmi les hommes, c'est le serviteur de tous. Écoutons d'ailleurs ce qu'affirme un des psaumes dit des montées, des ascensions, le psaume 133. Quel bonheur, quelle douceur pour des frères d'être ensemble. C'est comme l'huile parfumée sur la tête d'Aaron qui descend jusqu'à sa barbe, jusqu'au col de ses vêtements. C'est comme les gouttes de rosée de la montagne de l'Hermon qui descendent sur la colline de Sion. C'est là que le Seigneur donne sa bénédiction, la vie pour toujours.
À la lecture de ce psaume, il y a une descente. Il y a une descente sur la tête, sur les collines.
C'est vrai que l'huile et la rosée, qui représentent le don de Dieu, descendent. Mais vous remarquerez que les lieux où elles descendent, la barbe, le col du vêtement, les collines, sont déjà des lieux en hauteur. Être avec nos frères et nos sœurs, c'est être en hauteur. Pas en surplomb pour dominer, mais en hauteur, ensemble, pour recevoir ce que Dieu nous donne. Et en nous appelant vers nos frères et nos sœurs, Dieu nous élève déjà plus haut que nous-mêmes. Savez-vous que la présence d'un prochain peut faire vivre et que son absence peut faire mourir? Savez-vous que la parole d'un prochain peut guérir et que son silence peut rendre malade? Savez-vous que le sourire d'un prochain peut rendre heureux et que sa colère peut apporter le malheur? Savez-vous que la tendresse d'un prochain peut calmer la douleur et que sa dureté peut ouvrir des blessures? Savez-vous que l'attente d'un prochain peut faire battre un cœur et que son départ peut le glacer? Savez-vous que l'amitié d'un prochain peut faire chanter et que son indifférence peut faire couler des larmes? Bien sûr que vous le saviez, mais saviez-vous que pour beaucoup de vos frères et de vos sœurs, c'est vous qui êtes précisément ce prochain? Et comme force, pour nous élever vers nos frères et nos sœurs, nous recevons la bénédiction de la part de Dieu. Au creux de vos vies, le Seigneur dépose l'espérance. Dans le creux de vos mains, le Seigneur dépose son amour. Au fond de vos yeux, le Seigneur dépose sa lumière. Dans le fond de vos cœurs, le Seigneur dépose sa paix. Il élève nos vies vers nos frères et nos sœurs. Amen.
Ainsi s'achève ce service protestant. Nous étions aujourd'hui avec le pasteur Éric Georges de l'Église protestante unie de France à Évreux pour évoquer ce jeudi de l'Ascension. Merci à Dany Journeau et à Jean-Louis Deloncle pour la réalisation et la prise de son de ce service protestant proposé par Michel Schaeffer pour la Fédération protestante de France. Sachez que vous pouvez retrouver le texte de cette émission sur les sites franceculture.fr ou protestant.org. Et si vous désirez le recevoir par courrier, il vous suffit d'écrire au service radio de la Fédération protestante de France, au 47 rue de Clichy, 75 009, Paris. Très bonne journée à l'écoute de France Culture et à dimanche.